l'Éternel, car il est bon, car sa bonté durera toujours, car il nous a sauvés de la mort, notre Dieu vivant. Poussez vers Dieu des cris de joie, racontez de ses merveilles. Nous avons un Dieu qui est vivant, avec lui je suis toujours vainqueur. Avec lui je ne chancelle pas, avec lui je ne chancelle pas. Louez l'Éternel car il est bon, car sa bonté durera toujours, car il nous a sauvés de la mort, notre Dieu vivant. Célébrons-le pour son amour et pour sa fidélité. Changer toute notre vie, nous a donné la paix, la joie. Avec lui je vis pour l'éternité, avec lui je vis pour l'éternité. Louez l'Éternel car il est bon, car sa bonté durera toujours, car il nous a sauvés de la mort, notre Dieu. Sauvé de la mort, notre Dieu.
Tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur le net. Que Dieu vous bénisse ce soir. Enfin, je ne sais pas si vous écoutez le soir. Que Dieu vous bénisse. On va lire, on va reprendre le sermon sur la montagne, si vous voulez bien. On va se lever et lire dans Matthieu, chapitre 7, et versets 7 à 11. Matthieu 7 à 11. Demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, à qui frappe, on ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Amen.
Je vais vous asseoir, mes frères et sœurs.
Alors, ce soir, on voit que Jésus parle là. Il a parlé de notre relation les uns avec les autres. Maintenant, il parle de notre attitude à l'égard de Dieu, notre Père. Et il parle de la prière. La prière, parce que c'est le moment le plus intime avec lui. Et qu'est-ce qui nous incite à prier, mes frères et sœurs? Ben, c'est l'assurance absolue, certaine, d'obtenir ce qu'on reçoit. Je trouve que c'est absurde de prier si on ne s'attend pas à recevoir quelque chose de Dieu. Et si on ne s'attend pas à recevoir ce qu'on demande, ben, pourquoi prier? Mais il y a aussi d'autres questions qu'on va voir. Ça semble logique en tout cas, que quand on prie, c'est pour recevoir. Comment peut-on dire que le temps des miracles est fini alors qu'on prie encore? Si on prie et qu'on reçoit quelque chose de Dieu, c'est un miracle. Donc le temps des miracles n'est pas fini. Alors ne limitons pas les interventions de Dieu à des choses petites. Non, il fait aussi de grandes choses qui frappent, n'est-ce pas, notre conscience. Et des guérisons, par exemple. Moi, je me rappelle que quand je n'étais pas converti, j'avais déjà commencé dans des réunions de prière, on était exaucés. Mais quand j'ai entendu Raphaël prêcher et prier en disant « Voilà, maintenant on va prier pour les malades », j'ai dit « Non, là il exagère. » Vous voyez comment on est quand on est vraiment charnel, n'est-ce pas, de penser ça. Dieu n'est pas limité. Le moindre exaucement de prière, c'est un miracle. Et Dieu n'est pas limité, c'est nous qui sommes limités. Alors Jésus, pour bien se faire comprendre, il répète trois fois. Il dit d'abord « Demandez ». Puis ensuite, il dit « chercher », puis après, il dit « frapper ». Dans ces trois verbes, dans l'ordre où ils sont mis, on voit qu'il y a une progression. C'est un petit peu comme un enfant. Quand vous voyez, par exemple, mon petit-fils, hein, Titi, il veut quelque chose. Si elle est à côté de lui, il lui fait comprendre ce qu'il veut, il demande. Mais si elle n'est pas là, ben il cherche. Demander, chercher. Et puis si elle n'est pas visible, eh ben, il se dit, bon, elle est sûrement dans la chambre, alors il va frapper. Tout à l'heure, il est venu frapper à ma porte. Pourquoi? Parce qu'il voulait que j'aille voir sa maison dans la forêt, parce qu'on lui a offert une petite maison. Et dans la forêt, il voulait absolument que je la voie. Donc, vous voyez, il y a demander, chercher, frapper. Et Jésus veut que nous comprenions que c'est une relation que Dieu veut avec nous. Et il faut, pour avoir cette relation, des fois, ben, il faut le chercher. Il faut le chercher. Il faut des fois frapper à la porte. Il faut insister. Alors, Jésus fait encore dans la logique pour être certain qu'on a bien compris. Il précise que si un enfant demande une chose, eh ben, il ne va pas en recevoir une autre. C'est vrai. Imaginez un petit peu. Lucas, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Je voudrais ceci, je voudrais cela, puis on lui offre autre chose. Ça ne va pas. Hein? Quand quelqu'un demande, eh bien, il reçoit ce qu'il a demandé. Sinon, ben, non, c'est une immense farce, c'est une grosse blague. Hein? C'est vrai, ça ne tient pas debout. Si on demande quelque chose de bon, il dit aussi, il ne va pas vous donner quelque chose de mauvais et, ou quelque chose d'inutile. Beaucoup de gens s'approchent de Dieu pour recevoir une guérison. Ils reçoivent quelque chose d'inutile, ils tombent par terre. C'est inutile. Ouais, ce n'est pas Dieu qui donne. Si on demande la guérison, on reçoit la guérison. On ne reçoit pas cette expérience bizarre ou même dangereuse. Alors, bien que nous soyons mauvais, comme il le dit, c'est-à-dire égoïstes par nature, eh bien, on aime nos enfants et on leur donne ce qu'ils demandent et on leur donne uniquement que des bonnes choses. Par exemple, si mon petit-fils, voyant qu'un piment, c'est rouge, c'est brillant, c'est beau, il me le demande, ben, je ne vais pas y donner. Parce que je vais lui donner que ce qui est bon. Hein, d'accord? C'est normal. Alors, regardons ça un peu plus près. Bien que on suive nos nobles instincts parentaux, je parle de gens qui sont normaux, eh bien, si nous savons si bien nous occuper de nos enfants, grâce à ces nobles instincts parentaux que nous avons, Jésus ne se gêne pas pour ne pas nous épargner, il nous traite de mauvais quand même. Même si on sait donner de bonnes choses à nos enfants. Alors quand on voit ça, on comprend que Jésus n'est pas en train de nous comparer à Dieu. Il ne nous compare pas à Dieu, il nous oppose à Dieu. Il nous oppose à Dieu. Il y a ce « à combien plus forte raison ?» À combien plus forte raison ?« Votre Père Céleste qui est saint, qui est bon, qui est pur, donnera-t-il de bonnes choses à celui qui demande » C'est-à-dire à ses enfants. Et vous allez voir pourquoi je rajoute « à ses enfants » tout à l'heure. Parce que voilà, c'est très important de le comprendre. C'est très important ce que Jésus dit là, et il faut bien l'analyser, sinon on a une vie de prière un peu bancale. Ça nous remet toujours dans notre bonne position. Quand Jésus parle, c'est pour nous remettre dans notre bonne position, pour qu'on comprenne bien les choses, et que nous ayons conscience que Dieu est un Dieu bienveillant, que Dieu est un Dieu généreux. Il veut que nous le sachions, que nous en ayons la certitude. Il nous faut avoir cette sorte d'information-là pour avoir une foi correcte, afin d'avoir une assurance pour être exaucé. Sinon, mieux vaut aller se coucher, si on n'a pas cette assurance. Mieux vaut aller se coucher, perdre son temps à prier et sans être absolument certain. Moi, je comprends pas. Je n'ai jamais compris. Ça a toujours été un problème pour moi. Les gens qui font des nuits de prière à rabâcher. Et puis, bon, voilà. Pour nous, chrétiens du 21e siècle, ça nous semble de l'archi-connu, hein, ce qu'il dit là, parce que ça fait partie de notre culture, même les inconvertis. L'autre jour, j'étais à un enterrement, c'était bourré d'inconvertis, et la femme qui faisait office, l'office, là, c'était pas une prêtresse, parce que les catholiques ne reconnaissent pas encore les femmes pour faire... Mais par contre, il n'y avait pas de curé disponible, donc c'est une femme qui a fait l'enterrement, elle s'est très bien débrouillée d'ailleurs. Alors, elle nous a fait tous lever... Et tous les païens qui étaient là, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, ça, ils connaissent tout par cœur. C'est dans notre culture, notre Père qui est aux cieux. Mais quand Jésus a dit ça pour la première fois là-bas en Israël, les Juifs, ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu comme de leur Père. Pour eux, c'était quelque chose de tout nouveau. Ils n'avaient jamais osé prier en pensant que Dieu est un Père. Pour nous, c'est une autre histoire. Pour nous, ça fait partie de notre culture. 2000 ans de tradition, parler à Dieu comme notre Père. Même maintenant, pour des gens un peu sophistiqués dans leur culture, ils vont vous dire, oui, mais c'est un peu simpliste, ça, n'est-ce pas? C'est un peu simpliste. Parce que les gens de notre génération sont devenus, n'est-ce pas, sophistiqués. Ils réfléchissent un petit peu. Et pour eux, croire aussi simplement, eh bien, c'est presque aberrant. Aberrant. C'est même inconvenant. Ils disent très souvent, oui, mais vous savez, Dieu, s'il y a un Dieu, il a quand même d'autres choses à s'occuper que d'autres chats à fouetter, hein, que mes petits trucs, mes petits problèmes. Et puis, aussi, ceux qui réfléchissent un peu plus, ils disent, mais pourquoi est-ce que nous aurions besoin de l'informer au sujet de nos besoins, puisqu'il sait tout? Vous voyez? Ils pensent comme ça. Ils pensent comme ça. Ou alors ils pensent que la prière, avec la prière, on cherche à lui forcer la main. Hein, moi, je me rappelle, même à l'école biblique, il y a un professeur qui nous avait dit, prier, c'est faire bouger le bras de Dieu. Tu ne pries pas, le bras de Dieu ne bouge pas. Ah, pas tout à fait juste ça. En fait, une chose absolument certaine, il faut absolument en être certain, c'est que Dieu est Dieu et il sait tout, ça c'est vrai, et il prend soin de ses enfants dans toutes les circonstances, mais plus que ça même. Il le dit d'ailleurs. Alors, il faut croire ce qu'il dit, mais il faut pouvoir croire ce qu'il dit, bien écouter ce qu'il dit, faire attention aux mots qu'il emploie. Certains disent, venir vers Dieu avec nos trucs minables, non. Il faut poser les bonnes questions. Il y a des questions idiotes. Je me rappelle quand on allait à des conférences, il y avait toujours à la fin questions-réponses. Et puis, excusez-moi, je pose une question, je n'ai pas tellement. Oui, non, il n'y a pas de questions idiotes. Il faut toujours poser toutes les. Si, il y a quand même des questions, des fois, elles sont idiotes. Hein. Qu'est-ce qui fait croire aux gens que les bénédictions dépendent des requêtes qu'on lui adresse? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait croire ça aux gens? Les bienfaits de Dieu ne dépendent pas de nos requêtes, mes frères et sœurs. Il ne résiste pas à nous les accorder jusqu'au moment où on a réussi à le persuader qu'il faut nous les accorder. C'est pas comme ça. Il n'a pas besoin qu'on l'informe de nos besoins, de nos difficultés. Les bienfaits de Dieu, en fait, ils dépendent de nous. Ils dépendent de notre disposition à les recevoir de lui. Parce qu'on peut recevoir ses bienfaits sans savoir que ça vient de lui. Dans la prière, le disciple, il ne l'emporte pas sur Dieu. Il ne fait pas changer les plans de Dieu. Le disciple, il l'emporte sur lui-même pour se soumettre à Dieu, à sa volonté. Alors quand je dis ça, on me cite Jacob qui s'est battu avec Dieu puis qui a gagné. Ben moi, je ne vois pas ça comme ça, moi. Je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois que c'est Dieu qui a été vainqueur. Dieu a voulu cette bataille. Dieu a voulu cette bataille. Et dans cette bataille, il a fait que Jacob a été emmené à se soumettre jusqu'à être complètement disponible pour pouvoir recevoir la bénédiction qu'il voulait lui donner. Il a attiré son attention. Il a provoqué cette bagarre. Maintenant, si on lit Jacques 4, 2, qu'est-ce qu'on lit là?
On lit.
Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, nous les chrétiens, et jaloux. Vous ne pouvez réussir. Vous combattez et bataillez. Vous ne possédez pas parce que vous n'êtes pas demandeur. Ça, c'est une des raisons. Et vous demandez. Et ne recevez pas, parce que vos demandes ne visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs. Femme infidèle. Dans d'autres versions, c'est homme et femme infidèle. Là, ils ont mis que femme infidèle. Qu'est-ce que ça signifie, tout ça? On ne reçoit pas parce qu'on n'est pas demandeur. La prière, c'est quelque chose qui est institué par Dieu. Il faut demander. Deuxièmement, vous ne recevez pas parce que vous demandez des choses que Dieu ne veut pas vous donner. C'est-à-dire des choses qui sont mauvaises pour vous. Peut-être elles sont mauvaises pour vous maintenant, elles ne seront peut-être pas mauvaises pour vous dans 2-3 jours. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas bon pour vous. Comme l'histoire du piment pour mon petit-fils, ce n'est pas bon tout de suite. Il faut attendre un peu qu'il grandisse. Il y a des raisons. Alors, la prière est utile à quoi? À qui? Mes frères et sœurs, ça ne relève pas de la théologie. Si vous voulez faire une doctrine là-dessus, vous allez vous embrouiller les pinceaux. Parce qu'il y a toutes sortes de cas dans la parole de Dieu. Cela, ça relève de l'expérience avec Dieu, de la vie avec Dieu. En tant que disciple de Jésus, je regarde autour de moi et je vois des gens qui s'en sortent très bien sans la prière, pas vous ? Très bien, sans la prière. Les paysans qui nous entourent là, ils ont des bonnes récoltes par leurs travaux, pas par la prière que je sache, non ? Les familles qui sont là autour de nous dans le village, elles équilibrent leur budget comment ? Par la prière ? Non ? Par leur travail, par la sécu, par le chômage, par toutes sortes de trucs. Pas par la prière, sûrement pas. Alors pourquoi prier ? Il y a quelque chose qu'il faut absolument connaître et qu'on ne dit pas assez. C'est que Dieu est le Créateur. Et pour nous, il n'est pas que le Créateur, il est notre Père. Il est le Créateur de tout le monde, mais à nous, il est notre Père. En tant que Créateur, il accorde tous ses biens, moissons, enfants, nourriture, maison, vie, tout ce que vous voulez, qu'il prie ou non. Et à nous aussi d'ailleurs. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Est-ce que le matin, on se réunit pour la prière pour que Dieu fasse lever le soleil, puis si on ne le fait pas, ben non, le soleil ne se lève pas. Il est le Créateur. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Aucune de ces grâces ne dépend de la prière ni de la louange de ses créatures. Maintenant, les dons de Dieu, tous les dons de Dieu, ne sont pas universels. Il donne le salut à ceux qu'il a choisis. Et il accorde ses bienfaits à ses enfants qui lui demandent. Mais qui lui demandent bien. Pour de bonnes choses. Quelles choses ? Eh bien là, quand Jésus parle comme ça, il n'est pas en train de parler des biens matériels. Il parle de choses spirituelles. Il parle du pardon quotidien. Il parle de la délivrance du mal. Il parle de la paix. Il parle de la croissance de notre foi. Il parle de l'espérance. Il parle de l'amour. Seigneur, donne-moi la patience. Vous comprenez ? Ça, c'est ce que le Saint-Esprit, Dieu, fait dans le cœur de ceux qui sont ses enfants. C'est ça, les bonnes choses qui sont promises à ceux qui demandent. Mais ça, on ne le dit pas dans Matthieu chapitre 7, on le dit dans Luc chapitre 11, 13. C'est pourquoi la Bible, il faut la lire. Ne vous contentez pas de lire le sermon sur la montagne dans Matthieu, lisez-le aussi dans Luc 11, 13. Regardez ce qu'il dit. Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui demandent ? Très différent. C'est très différent. Et quand il vous donne le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit, quand vous demandez, il vous donne les choses qui sont de lui, c'est-à-dire la paix, l'amour, la joie, l'espérance, la croissance, hein, et toutes ces choses-là. Maintenant, ça ne signifie pas que Dieu n'exauce pas les prières quant aux choses matérielles, comme le pain, par exemple, puisque Jésus lui-même dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Bien, nous prions pour le pain. Mais mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui mangent du pain tous les jours sans jamais demander du pain à Dieu. Et ils mangent. Moi, des fois, je vais au restaurant, je regarde manger, je dis « pas hier ». On voit tout de suite, ils ne prient pas, ils ne remercient pas Dieu. Ils n'ont pas cet esprit-là. Eh bien, ils mangent quand même. Et en Afrique, ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas qu'ils ne mangent pas. Parce qu'ici, il y en a qui ne prient pas et ils mangent. Ça n'a rien à voir. Alors, ça veut dire quoi ? Nous, chrétiens, nous, ses enfants, nous lui demandons, attention, écoutez bien, nous lui demandons pour que le diable, pour que les démons et pour que les incrédules qui nous voient sachent que nous, nous avons conscience que Dieu est notre maître. Et que nous dépendons de lui. C'est pour ça qu'on prie. Même si on ne prie pas pour notre pain quotidien, il nous le donnera. Nous avons une conscience différente de celle du diable. Nous avons une conscience différente de celle des démons. Et nous avons une conscience différente des païens qui ne prient pas à table, par exemple. On a une conscience différente. Mes frères et sœurs, il est notre Père. Et nous sommes ses enfants. Et maintenant, je vous pose une question. En tant qu'enfant, quel âge avez-vous? Spirituellement, en esprit, quel âge avez-vous? Est-ce qu'il ne serait pas temps pour nous, pour vous, de vous occuper des affaires de votre Père? Demander et ne pas recevoir, ne serait-ce pas parce qu'on est trop centré sur soi-même? C'est ce que Jacques dit. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous cherchez à satisfaire vos besoins égoïstes, etc. Il arrive que Dieu n'exauce pas parce qu'il juge que nous devrions avoir conscience que nous devons plus nous occuper de lui donner à lui que de recevoir de lui. On lui donne quoi? On est toujours en train de lui demander qu'il nous donne. Mais nous, on lui donne quoi? Alors Jésus est mort à la croix. On entend souvent ça, Seigneur, tu es mort à la croix pour le pardon de nos péchés, pour la guérison de nos maladies, tout est accompli, c'est bien. On peut tout attendre de lui. Mais lui, est-ce qu'il n'attend pas quelque chose de nous aussi? Est-ce que on se sert de la croix pour approfondir notre vie spirituelle? Mais pourquoi est-ce qu'on veut avoir une vie spirituelle plus profonde? Pour saisir tout ce que Dieu a pour vous? C'est encore de l'égoïsme. Les enfants doivent grandir. Alors qu'est-ce que ça dissimule, toutes ces supplications? Elles sont faites pour quoi? Pour nos victoires ou pour sa victoire? Pour notre gloire ou pour sa gloire? Pour notre confort ou pour le sien? Vous savez, ça c'est une chanson que j'entends tout le temps. Quand je raconte les miracles en Afrique, les gens après se regardent et disent, je ne vais pas me moquer, mais ça donne à peu près ça. Ah, mais vous savez, c'est vrai quand même, en Afrique, ils sont tellement simples. L'air de dire, ils sont bêtes. Hein. Ils sont tellement simples, ils sont comme des enfants, ils ne s'embrouillent pas avec les doctrines. Alors, à peine, on prie pour eux, mais ils reçoivent comme des enfants, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai, en partie, je dis bien, pourquoi en vrai, en partie? Parce que si ça, c'est vrai en partie, c'est vrai aussi alors que nous, ben, on n'est plus des enfants. Ah, on n'est plus des enfants, alors donc, si on ne reçoit pas, c'est peut-être parce qu'on ne s'occupe pas des affaires de notre Père et que Dieu voudrait nous apprendre ça. La France est une vieille nation où les gens ont une maturité, c'est-à-dire une culture chrétienne. Je vous ai dit encore tout à l'heure, à cet enterrement, tout le monde connaît le Notre Père, tout le monde. Une culture plus ancienne, une culture chrétienne plus ancienne qu'en Afrique. Alors, pourquoi si peu de miracles? Eh bien, ne serait-ce pas en partie parce que Dieu ne tolère plus cette gravitation autour de notre moi. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, j'ai besoin, Seigneur, tu vois mes besoins, tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes. On en sait assez, on en a assez, on a une surabondance de connaissances. Toute la connaissance est à notre portée, maintenant ceux qui sont sur Internet, toute la connaissance est là à notre portée. Alors, cessons de mendier, cessons de demander pour nous-mêmes si nous ne nous occupons pas des affaires de notre Père. On peut demander pour nous-mêmes si nous nous occupons des affaires de notre Père. Mais si on ne s'occupe pas des affaires de notre Père, c'est fini. Arrêtez de demander pour vous-même. Vous êtes en train de vous moquer de Dieu. Vous comprenez ça? Vous voyez l'idée que je veux partager avec vous, que je veux faire passer? Si vous ne vous occupez pas des affaires de votre Père, avec toute la connaissance que vous avez, demandez encore et demandez encore et demandez encore, c'est de l'infantilisme. Si nous ne nous occupons pas des affaires de notre Père, il est en droit de s'attendre à ce que nous nous occupions de ses affaires. Et peut-être que s'il n'exauce pas, ben c'est peut-être à cause de ça, c'est pour attirer notre attention sur quelque chose, sur une grande vérité. Nous avons reçu la vie à la nouvelle naissance. Je vous ai prêché ces derniers temps sur le fait que Christ vit en nous. Maintenant, nous sommes vivants, nous avons reçu la vie, mais est-ce qu'on participe à la vie de Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que nous donnons du fruit? Est-ce que nous produisons quelque chose? Jésus en nous vit. Mais quelle sorte de vie il vit? Quelle sorte de vie Jésus vit-il en vous? Il veut vivre en vous ce qu'il vivait il y a 2000 ans quand il était dans son premier corps en Israël. C'est ça qu'il veut vivre. Une vie vécue pour Dieu. Il veut vivre en vous une vie livrée aux autres. C'est pas que Dieu ne veut pas vous exaucer. Mais pourquoi il n'y a pas de miracle? C'est pas que Dieu ne veut pas vous exaucer. Il continue à prendre soin de vous. Il a encore fait lever le soleil. Et vous avez mangé du pain aujourd'hui. Qui c'est qui n'a pas mangé du pain? C'est parce que vous ne voulez pas grossir que vous n'avez pas mangé de pain. Il continue à prendre soin de vous, bien sûr. Mais il attend que vous preniez soin de ses affaires et des autres. C'est ça la chose. Et non pas que de vous-même et que de vos victoires à vous. Christ vit en vous. Et il n'a qu'une seule manière de vivre, Jésus-Christ. Qu'une seule manière de vivre. C'est de donner tout pour Dieu et pour les autres. C'est comme ça qu'il a vécu il y a 2000 ans. Et c'est comme ça qu'il veut continuer à vivre aujourd'hui. Mais si vous vivez encore vous, pour vos machins, pour vos trucs, même pour votre vie spirituelle, pour votre famille, pour votre ceci, pour votre ça, c'est encore du moi, 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 c'est encore vous êtes du monde. C'est dur, hein? Et c'est pourtant ça. La vie de Christ, ça ne fonctionne pas comme ça. La vie de Christ, ça fonctionne autrement. Ne persistez pas à interpréter la grâce de la croix à la lumière d'un profit, même spirituel. Si on le fait, c'est qu'on n'est encore pas délivré du monde. C'est qu'on fonctionne encore comme le monde. On ne sert pas Dieu, on se sert de Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres. Si vous ne servez pas Dieu, c'est qui que vous servez? Il ne faut pas se servir de Dieu, il faut servir Dieu. Christ qui vit en vous, il veut reproduire la vie qu'il avait autrefois, là, quand il était sur la terre, dans son premier corps. Maintenant, c'est vous, son nouveau corps. Mes frères et sœurs, il faut que nous renoncions à nos propres voies, à notre propre entendement. Il faut marcher comme Jésus veut que nous marchions. C'est ça, le suivre. Comment voulez-vous le suivre? C'est plus un bonhomme qui est là devant vous puis que vous marchez derrière. Le suivre, ça veut dire mettre vos pas dans ses pas, c'est-à-dire aller là où il allait pour faire les choses qu'il faisait. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est ça, le suivre. C'est ça, le suivre. Alors, il va imposer ça à personne. Ça doit venir du cœur. Bien sûr, ça doit être enseigné. Parce que ça ne peut pas être cru si ça n'est pas enseigné. La foi, elle vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Alors ça doit être enseigné, ensuite ça doit être cru, mais ça doit venir de votre cœur. Ça doit venir d'un cœur heureux, parce que si c'est le don de votre vie, en traînant les pattes, ça c'est l'horreur. Dieu le voit, hein, Dieu le sait. Ça doit venir d'un cœur heureux, d'un cœur qui est conscient de ses privilèges. C'est un privilège de pouvoir faire les mêmes œuvres que lui, et même encore des plus grandes. Être conscient du privilège que nous avons, qui nous a été donné de choisir le chemin sur lequel nous marchons. Est-ce que vous le choisissez vraiment? Ça paraît comme ça, mais en réalité, c'est Dieu qui conduit toutes choses. Et vous allez faire la volonté de Dieu, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Vous allez la faire. Même le diable fait la volonté de Dieu, il ne peut rien faire en dehors. Alors, louez Dieu d'avoir eu un cœur bien disposé. Remerciez Dieu d'avoir un cœur bien disposé à faire ce que vous comprenez que vous devez faire. La voie par excellence, c'est toute notre vie à son service et pour les autres. Amen. Jésus, je te prie que cette idée que tu m'as donnée, que j'ai développée ce soir, puisse germer dans chacun de nous et puisse porter du fruit qui te glorifie, que nous puissions cesser de nous battre pour nos projets, pour nos plans, pour nos idées, pour nos sentiments, pour notre argent, pour que sais-je, mais que nous puissions te laisser vivre et faire ce que tu veux, que ta volonté soit faite au travers de nous. Que ce qui se passe en haut se passe aussi en bas. Que ta volonté soit faite ici-bas dans mon corps comme elle est faite dans le ciel, là où je suis en toi, dans ton corps. Que ton nom soit béni au travers de ma vie et au travers de la vie de mes frères et sœurs. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen.